Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce 8 mars, c'est la journée de la femme. Les programmes d'Europe 1 en sont d'ailleurs depuis ce matin le reflet. Et Franck Ferrand a lui choisi de nous parler d'une grande figure féminine. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à toutes et à tous. Nous allons en effet consacrer l'émission à l'une des femmes les plus remarquables à tous les sens de ce mot et en même temps les moins connues de notre histoire. Si je vous donne son nom, Thérouanne de Méricourt, je suis à peu près certain que ça n'évoque pas grand-chose à une majorité d'entre vous. Eh bien, dans une heure, vous pourrez mettre un visage sur ce nom et quelques belles tranches de vie aussi. C'est toute mon ambition aujourd'hui.
Très bien. Franck, je remarque quand même que vous êtes habillé en bleu, blanc, rouge aujourd'hui.
Ben oui, c'est pour me mettre dans l'ambiance. Écoutez ça, Julia. C'est donc bien au cœur de la Révolution française que nous allons plonger.
Carmagnole. Auparavant, juste un petit mot pour les auditeurs pour leur rappeler qu'ils peuvent envoyer leurs mails et questions. Remarque aussi à Franck Ferrand et à tous ses invités.
Nous nous ferons un plaisir d'y répondre.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Certains personnages font une entrée assez brève sur la grande scène de l'histoire, assez marquante aussi pour être définitivement figée dans une tenue et dans une posture. C'est le cas de notre héroïne d'aujourd'hui, la jeune, la belle, la fantasque Thérouanne de Méricourt. Alors, une fois pour toutes, aux yeux du 19e siècle, du 20e, de notre 21e et probablement du 22e et du 23e siècle, Thérouanne reste et restera cette passionnariat qui, en amazone d'écarlate et panache de jais, harangue les badauds devant l'entrée du manège versaillais où siège une toute nouvelle assemblée nationale. Amazone d'écarlate et panache de jais, j'ai employé l'expression de l'époque, pour les plus jeunes de nos auditeurs. Et je sais que, notamment dans la zone où ce sont encore les vacances, ils sont nombreux, je m'en réjouis, il faut peut-être traduire cette expression. Une amazone, c'est une jupe très ample que les femmes avaient l'habitude de porter, notamment à cheval. Écarlate donc, rouge vif. Et le panache de jais, ben c'est ce gros bouquet de plumes noires que la demoiselle porte à son chapeau. Ample jupe rouge et chapeau à plumes noires, le regard franc, le verbe haut. Voilà donc notre Thérouanne croquée à la diable pour l'éternité. Lamartine, de son côté, nous la décrit sous un jour lamartinien, assez romantique finalement. Il nous la montre le jour de l'insurrection faubourienne du 20 juin 1792. Il nous la montre conduisant une troupe de femmes et d'enfants de la Bastille jusqu'aux Tuileries où réside encore la famille royale. Jeune et belle, nous dit Lamartine, vêtue en homme, un sabre à la main, un fusil sur l'épaule et assise sur un canon tiré par des ouvriers aux bras nus. Tout un programme, voilà, pour l'image d'Épinal. Alors, qui est-elle, cette jeune et belle révolutionnaire? Et d'où nous vient-elle? Oh, elle vient d'assez loin pour l'époque. Elle nous vient de la principauté de Liège. D'ailleurs, on l'appelle la Liégeoise. Son village natal s'appelle Marcourt. C'est un affluent, ça se trouve sur l'Ourthe, qui est un affluent de la Meuse. Son père est un laboureur. Alors attention au terme, hein, quand on dit un laboureur, il ne faut pas commettre de contresens. Ça veut dire qu'il cultive sa terre personnelle, que c'est donc un paysan assez aisé. Seulement, la petite Anne, c'est son prénom, a perdu sa mère tôt et elle a du mal avec la seconde épouse de son père, qui est une espèce de marâtre. Alors Anne, bien sûr, se dispute avec sa marâtre. Elle fait plusieurs fugues. Elle est placée chez sa tante, élevée un temps par les Ursulines. Tout lui est bon pour retrouver un petit peu d'indépendance. On la voit vachère à 14 ans. Ça nous paraît un peu exotique aujourd'hui. Il faut savoir que c'était assez fréquent, ça, jusqu'à la dernière guerre. Moi, j'ai connu, Julia, des dames qui avaient gardé les vaches jusque dans les années, à la fin des années 30. C'était tout à fait normal. Mmh. Ça faisait partie des occupations d'une jeune fille à la campagne. Elle a été également servante dans une maison bourgeoise. Elle mériterait mieux, évidemment, cette jeune fille charmante, ne serait-ce que par son physique. Voilà comment un de ses biographes l'a décrit. Je cite, brune aux yeux bleus, c'est Janssen qui dit ça. Brune aux yeux bleus, la taille menue et bien prise, les traits délicats, le teint nuance de la poire rousselet, ça c'est ce qui s'appelle de la précision. Les mains et les pieds d'une finesse étonnante pour ses origines. Allons-y, un peu de discrimination au passage, avec de l'esprit naturel, avec la parole facile, la voix agréablement timbrée. Un contemporain précisait, et j'aurais tendance à lui faire un peu plus confiance, elle avait un minois chiffonné, un air mutin qui allait à merveille, un de ces nez retroussés qui change la face des empires. Il faisait sans doute allusion à Cléopâtre. Évidemment, Théroigne de Méricourt a laissé dans l'histoire une empreinte bien plus ténue que celle de Cléopâtre, mais vous voyez que si son nez avait été, non pas plus court, mais un brin plus long, il aurait pu changer la face de la Révolution. Avec de pareils atouts à l'époque, on aurait pu dire avec de pareils appâts, on reste rarement longtemps servante. Voilà qu'à 17 ans, elle est remarquée par une jolie dame qui, je cite, « répandait aux alentours la douceur de la jonquille et une chaleur égale ». Ça, ce sont des mots de romancier. Une femme du monde, une Anglaise, Madame Colbert. Cette Madame Colbert va jouer un rôle important. C'est elle qui fait de la charmante Anne sa dame de compagnie. C'est elle qui l'éduque, si l'on peut dire, et la pousse notamment vers la musique, vers le chant. On est en pleine époque des pastorales et des bergerettes. On pousse volontiers la chansonnette dans les salons. Et évidemment, comme Anne a une très jolie voix, un timbre, je l'ai dit, magnifique, éclatant, l'idée ne tarde pas à germer dans sa petite tête. Elle se dit, et après tout, pourquoi est-ce que moi je ne deviendrais pas chanteuse ? Ah, si seulement Madame Colbert voulait bien donner un petit coup de pouce, si seulement elle voulait bien l'accompagner dans ce qui à l'époque apparaît comme la capitale de la musique, l'accompagner à Londres. Elle est anglaise, je l'ai dit, cette Madame Colbert. Eh bien, elle finit par céder. Elle accompagne notre Anne à Londres. Et à ce moment-là, c'est comme si les meilleurs professeurs venaient naturellement à la demoiselle Théroigne. Non moins naturellement d'ailleurs qu'un certain nombre d'amants, dont un jeune lord qui devient fou d'elle. Les deux jeunes gens s'aiment, seulement là, Madame Colbert essaie de s'interposer. Anne s'enfuit avec son bel amant. Je vous rassure, si l'on peut dire, il y en aura d'autres, dont un monsieur d'âge mûr, le marquis Doublet de Persan. Lui la met dans son lit, elle le met sur la paille, et à peu près aussi vite d'ailleurs. Son magot, notre Anne, devenue courtisane, ira le dépenser avec un chanteur italien. Ah, ces artistes, ah, ces chanteuses, jamais rassasiées. C'est un extrait de L'amant jaloux de Grétry. Vous savez, ce Grétry qui était le compositeur à la mode dans ces années. Alors, On va retrouver Anne Théroigne à Naples, dans les bras de son chanteur. Et c'est là, au beau soleil napolitain, qu'elle apprend la nouvelle des agitations, des événements qui sont en train de troubler la France. Et notamment, c'est là qu'elle apprend la convocation des États généraux. Pas question qu'un événement pareil se passe sans qu'elle en soit. Elle, vous imaginez la lectrice enflammée de Jean-Jacques, elle qui a pour les Lumières une telle admiration dévorante. Dès le 11 mai 1789, Mademoiselle Théroigne est à Paris et quand on lui demande son nom, elle dit « Je m'appelle Théroigne de Méricourt » et son mouvement de menton agite à son chapeau les grandes plumes noires. Ça y est, vous m'avez compris, un personnage est né.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
En cette journée de la femme, au cœur de l'histoire, met à l'honneur une grande figure féminine sur Europe 1, Théroigne de Méricourt, Franck Ferrand.
Eh oui, Anne Théroigne, la belle liégeoise qui se faisait appeler Théroigne de Méricourt. Alors, beaucoup plus tard, Anne devait se rappeler le temps béni des débats enflammés en compagnie du flamboyant Camille Desmoulins dans les jardins du Palais Royal. Ces jardins du Palais Royal, chez le duc d'Orléans, c'était l'épicentre de la Révolution française. On devrait dire d'ailleurs la Révolution parisienne pour le moment. Du reste, le gros de l'action se passe à Versailles. Et Théroigne s'y installe pour mieux suivre les débats de la toute nouvelle Assemblée. Et elle est là, cette Théroigne de Méricourt. Elle fait partie de ces personnages dont on a l'impression qu'ils sont toujours au bon moment, au bon endroit. Premier témoin aux premières loges pour ce qu'on va appeler les journées d'octobre, c'est-à-dire ces jours des 5 et 6 octobre 1789, où la foule parisienne, et beaucoup de femmes dans cette foule, une grande quantité de femmes, une majorité, sont venues jusqu'à Versailles, au départ pour interpeller l'Assemblée nationale, et puis petit à petit, ils vont se mettre dans l'idée de ramener à Paris le boulanger, la boulangère et le petit Mitron, c'est-à-dire la famille royale. Elle est là, Théroigne, elle les accompagne, ces femmes de Paris, ses charmes, nous dit un contemporain, l'étrangeté de sa toilette, vous voyez décidément, et son air décidé, exerçait un irrésistible ascendant sur les foules. Un membre du club des Cordeliers déclare « On dirait la reine de Saba visitant le Salomon du district ». Ça, c'est déjà le vocabulaire révolutionnaire hein, qui se profile, les clubs, les districts, les représentants, la nation, la loi. J'allais dire ça fait froid dans le dos, mais enfin ça dépend des points de vue. Il y en a qui trouvent ça magnifique, et après tout. Hein. L'assiduité de Théroigne au débat de l'Assemblée ne la fait pas prendre au sérieux pour autant. Un admirateur, tout de même, parmi ces messieurs, et même un amoureux transi, le mathématicien Gilbert Rome, futur président de la Convention, qui fonde avec elle le club des « Amis de la loi ». Ça ne fait pas tellement recette leur club là. En fait, Gilbert Rome a fait ça pour lui faire plaisir. Il avait trouvé un bon moyen de voir Théroigne tous les jours. Mais en fait, ça va durer 2 mois. Il faut vous dire que tous ces révolutionnaires sont singulièrement machistes. Et j'y reviendrai tout à l'heure en compagnie de mon invité, car c'est un aspect de la Révolution qu'on a souvent tendance à passer un peu sous silence. N'oublions pas que ces députés du tiers sont avant tout des bourgeois qui ont des droits de la femme, si j'ose dire, une idée très, mais alors très restrictive. Je cite Elisabeth Roudinesco, auteure d'un beau livre « Théroigne de Méricourt, une femme mélancolique sous la Révolution », s'est publié par Albin Michel. Elle parle, Elisabeth Roudinesco, des figures féminines de la Révolution, je la cite. « Quatre femmes célèbres dominent la Révolution et semblent incarner à chacune de ses étapes les idéaux des différentes factions. » Marie-Antoinette représente l'essence même d'une féminité nobiliaire, tantôt porteuse de tous ses privilèges de caste, tantôt déchue de tous les signes de son ancienne gloire. Après elle, Madame Roland traduit la sensibilité défaillante du parti girondin en alliant la figure rousseauiste de la compagne maternelle à celle encore aristocratique de la directrice de conscience. C'est quand même pas mal dit, ça, je trouve. Puis vient, évidemment, Charlotte Corday, vierge criminelle de la jeune République, Brutus femelle pour les modérés, nouvelle Jeanne d'Arc pour les amis du roi, monstre sanguinaire pour les partisans de Marat. Enfin, se profile à l'aube du directoire le beau visage de Madame Tallien, courtisane thermidorienne, symbole à la fois de la terreur vaincue et du plaisir retrouvé. Et Elisabeth Roudinesco insiste sur le fait que ces femmes-là n'ont rien de commun, dit-elle, avec les grandes figures féminines féminine de la Révolution, ni avec la foule des demandeuses de pain. Et elle va nous parler des autres femmes de la Révolution, celles dont on ne parle jamais. Célibataire, écrit-elle, galante, mal mariée ou saltimbanque, elle s'appelle Etta Pane d'Elders, Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Claire Lacombe. Quatre femmes marginales et pourtant très différentes et qui incarnent plus que les autres la forme moderne d'un égalitarisme qui mettra un siècle et demi à s'imposer en France. Fin de citation. Un siècle et demi pour que les belles idées de ce Carteron de femmes d'avant-garde puissent enfin se faire une place dans la conscience des Français. En vérité, Anne Théroigne n'a pas tardé à comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue parmi tous ces Français pleins de leurs préjugés masculins. Quand la presse et les chansonniers ont commencé à la repérer pour se moquer d'elle, eh bien, elle a décidé que c'en était assez, qu'il était temps qu'elle rentre chez elle dans la principauté de Liège. Alors elle prend la route, seulement voilà, les royalistes et notamment les agents de l'empereur d'Autriche gardaient un œil sur elle, et dans la nuit du 15 au 16 février 1791, elle est enlevée, s'il vous plaît, jetée dans une chaise de poste bien verrouillée et envoyée tout droit au Tyrol dans une cellule de la forteresse de Kufstein. C'est un véritable roman que la vie de cette femme. Elle a été écrouée sous le nom de Madame de Théobald et des enquêteurs sont envoyés depuis Vienne par le chancelier Kaunitz pour l'interroger. L'interroger inlassablement pendant des semaines et pendant des mois. Et qu'est-ce qu'on veut lui faire dire à notre Théroigne ? Quelle est l'âme d'un complot révolutionnaire contre la principauté de Liège et au-delà contre les Pays-Bas autrichiens ? Fadaise, crie-t-elle, absurdité ! Le seul rôle qu'elles veulent bien endosser, c'est celui d'une militante pour l'amélioration de la condition des femmes. « J'ai toujours été humiliée de la servitude et des préjugés sous lesquels l'orgueil des hommes tient mon sexe opprimé », écrivait-elle. Comme un bel oiseau exotique qui, d'un seul coup, serait encagé, on voit Théroigne perdre ses couleurs, si je puis dire. La pauvre, elle dépérit, elle va bientôt tomber dans la dépression. Elle a une certaine tendance à la dépression, il faut le dire. Finalement, les Autrichiens réalisent qu'ils ont fait fausse route et après 9 mois de détention, on transfère Théroigne à Vienne, où elle peut rencontrer Kaunitz et même l'empereur Léopold en personne. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ben, c'est ici que l'historien doit céder le pas devant le romancier. Et quel romancier ? J'aimerais vous lire l'entretien que l'empereur et cette femme de la Révolution ont pu avoir, en tout cas cet entretien tel que l'a imaginé pour nous Philippe Séguy dans son roman « Et embrasser la liberté sur la bouche ». Léopold II fit tourner le chaton d'une bague qu'il portait au pouce, puis leva les yeux vers Anne comme s'il la connaissait depuis toujours. « Avez-vous faim ? Si c'est le cas, prenez, sinon ne vous forcez en rien. » Il la regarda couper à la fourchette un morceau de tarte au pavot. Il dit « C'était le dessert préféré de ma sœur Antonia lorsqu'elle était petite. » Elle comprit qu'il parlait de la reine de France. Léopold but une gorgée de thé, reposa la tasse. Anne, la fourchette. Ils se turent durant 2 ou 3 minutes. Ce silence ne fut troublé que par un sourire flottant du Habsbourg. « Vous ne m'aimez pas, n'est-ce pas ? Ne le niez pas. Je sais que vous chercherez tous les moyens pour nous faire du mal. Certaines espèces ne peuvent croître qu'en supprimant d'autres. Je ne sais ce qui m'empêche de vous oublier dans mes prisons. Avez-vous une idée ? Le goût de la justice, répond Théroigne. Peut-être. Je vous rencontre par curiosité. On m'a dit de me méfier de vous. On m'a dit que vous étiez une terroriste. La mort n'aurait pas plus joli visage et la mienne est si proche. Dans les mois qui me restent, je ne suis toujours pas rassasié. Je crains de devoir mourir sans vous comprendre, mademoiselle. » J'ai répondu aux questions de mon juge. J'ai dit quelles étaient mes idées. Je crois en la Révolution. Et moi en Dieu et en l'Empire. Je crois en l'homme. Car il est bon et généreux, absurde, il est avide et lâche, il est vaniteux, décevant, il n'est jamais satisfait. Tout à l'heure, j'aurai la joie de recevoir ici même Philippe Séguy. Il nous racontera comment il est tombé amoureux lui-même, je ne plaisante pas, de l'indomptable Théroigne, amoureux à plus de 2 siècles de distance. En attendant, il nous reste à revivre le martyr de Théroigne, ou comment la bêtise et la vilenie l'ont prise pour cible au point de lui faire perdre à jamais la raison.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant.
À la une au cœur de l'histoire sur Europe 1, le destin d'une femme de la Révolution, Théroigne de Méricourt, Franck Ferrand.
Théroigne de Méricourt qui sort des geôles de l'empereur d'Autriche et qui donc rentre à Paris auréolée d'une véritable gloire. On l'acclame, on la fête, on se l'arrache. Le 26 janvier 1792, elle fait son entrée au club des Jacobins et là, le citoyen Dufourny grimpe à la tribune. « Je dois vous annoncer un triomphe pour le patriotisme », lance-t-il. « Mademoiselle Théroigne, célèbre par son civisme et par les persécutions qu'elle a éprouvées, est ici, dans la tribune des dames, et allez, viva, hurrah !» Et à l'Assemblée, le lendemain, on lui offre, chose rarissime pour une femme, de prendre la parole à la tribune de l'Assemblée pour dénoncer les menées étrangères. Le citoyen Manuel, cette fois, la salue. « Vous venez d'entendre une des premières Amazones de la liberté, Martin de la Constitution. Et viva et hurrah ! Théroigne n'en croit pas ses yeux. Elle est pleine d'enthousiasme. Elle envisage de créer un bataillon de femmes, des femmes armées pour aller défendre les frontières. « Nous montrerons à l'Europe, dit-elle, que les Françaises connaissent leurs droits et sont à la hauteur des Lumières en méprisant les préjugés. » Ah, belle parole ! Belle parole qui néanmoins agace, irrite, gêne la majorité des contemporains. Lorsqu'on consulte aujourd'hui les journaux et les feuilles révolutionnaires, on constate que l'antiféminisme y était très répandu. Les discours et les initiatives de Théroigne de Méricourt sont qualifiés d'intempestives par un organe de presse aussi progressiste en apparence que les révolutions de Paris. On se moque de Théroigne, on brocarde ses tenues, on ridiculise ses propos. Même lorsqu'elle réussit, si vous voulez, à réunir un certain nombre de femmes, comme elle l'a fait sur le faubourg Saint-Antoine, la réunion se trouve brocardée. Elle est qualifiée le lendemain d'attroupement de prostituées. La Société des droits de l'homme est ennemie du despotisme. On est vraiment dans la phraséologie révolutionnaire. Cette Société des droits de l'homme du faubourg Saint-Antoine va jusqu'à s'inquiéter. Le commandant de la garde nationale, Santerre, le reconnaît. Les hommes de ce faubourg, dit-il, aiment mieux, en rentrant de leur travail, trouver leur ménage en ordre que de voir revenir leur femme d'une assemblée où elle ne gagne pas toujours un esprit de douceur. Qu'importe, Théroigne continue d'attiser les ardeurs des femmes de Paris. On a vu son rôle tout à l'heure le 20 juin 1792. Eh bien, évidemment, le 10 août, le jour où la monarchie va basculer, elle est au premier rang des émeutiers qui donnent l'assaut contre le palais royal des Tuileries. Dans la mêlée, elle voit de ses propres yeux l'un de ses pires ennemis, le pamphlétaire royaliste François Sulot, se faire lyncher, littéralement écharpé par la foule. Est-ce qu'elle s'estime vengée ? En tout cas, le Moniteur annoncera plus tard « Les fédérés viennent de décerner des couronnes civiques à Mesdemoiselles Lacombe, Théroigne et Reine Audue qui se sont distinguées par leur courage dans la journée du 10 août. » On sait que dans ce genre de circonstances, le courage n'est jamais éloigné de la sauvagerie. N'oublions pas que la Révolution est en train de basculer. On n'est plus très loin de la terreur. Il ne fait pas bon afficher des sympathies girondines. Or, le 15 mai 1793, Théroigne se présente toujours Amazone rouge et panache noire, à l'entrée de la convention. Elle se heurte là aux tricoteuses qui disent « C'est une brissotine, c'est une girondine !» Alors le ton monte, on commence à s'invectiver et d'un seul coup, les femmes de la halle attrapent littéralement Théroigne, elles la troussent et elles lui infligent une fessée en public. C'est une humiliation terrible pour Théroigne qui hurle et c'est Marat qui lui-même va intervenir pour faire cesser la farce. Mais pour la belle liégeoise, cet épisode a marqué une rupture. Elle devient enragée, extrémiste. Elle va bientôt sombrer dans la folie et il faudra l'interner à l'asile d'aliénés de la Salpêtrière. L'ironie de cette conclusion, c'est que Théroigne, défenseuse inlassable des femmes, aura été, qu'on le veuille ou non, la victime des femmes.
C'était le récit d'Au cœur de l'histoire sur Europe 1. On passe à la partie magazine, Franck.
Et oui, juste après 14h, nous évoquerons donc la folie de Théroigne, mais aussi sa grande sagesse, son héritage, en compagnie d'un homme qui, je vous l'ai dit, deux siècles après, est tombé amoureux d'elle, le romancier Philippe Séguy, qui vient de lui consacrer un livre magnifique.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 au destin d'une femme dans la révolution Terwijn de Méricourt. Et pour en parler, Philippe Séguy, qui est historien, journaliste et grand reporter à Point de Vue, mais également auteur du livre Embrasser la liberté chez Flammarion, nous a rejoint Franck.
Embrasser la liberté sur la bouche, Julia.
Sur la bouche, je n'osais pas le dire.
Vous n'osiez pas.
Vous l'avez fait à ma place.
Voilà, je vous ai vu rougir et je me suis dit, il faut absolument aller jusqu'au bout de ce titre. Bonjour Philippe Séguy.
Bonjour Franck Ferrand.
Très beau titre, Flammarion a accepté ce titre comme ça d'emblée.
Eh bien, je m'en réjouis parce que c'est bien de ça dont il s'agit, une femme passionnée par la liberté et qui va justement donner sa vie pour elle.
En ce 8 mars, vous avouerez qu'on aurait pu trouver un sujet moins indiqué. Alors, nous avons laissé notre pauvre Terwijn, notre pauvre Anne, à l'hôpital de la Salpêtrière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été mise en accusation au pire moment, en juin 1994, en étant pleine terreur. Elle risque vraiment sa tête. Et c'est son frère Joseph qui, en invoquant la folie, va, dans un premier temps, lui sauver la vie.
C'est exactement ça. C'est une période terrible de l'histoire de France. On guillotine énormément. On ne fait aucune disparité entre les sexes. Femmes et hommes meurent sur l'échafaud. Et le frère de Terwijn, constatant en effet que la santé mentale de sa sœur est extrêmement fragilisée, va lui sauver la vie en disant justement, et c'est d'ailleurs très facilement prouvé, que sa sœur a basculé progressivement dans la folie.
Alors elle va rester encore quelques années comme ça, et puis on est obligé de l'interner vraiment dans un asile, et pas n'importe où, hein, aux petites maisons de la Salpêtrière, dans un endroit assez, qui était tristement célèbre et depuis longtemps.
C'est-à-dire qu'elle va rester 17 ans à la Salpêtrière, 17 ans murée complètement dans sa folie. Dans son malheur, elle bénéficie quand même d'un médecin aliéniste qui est le docteur Philippe Pinel, et qui va justement essayer déjà, dans un premier temps, de faire en sorte que les femmes soient mieux traitées dans cet endroit qui est effroyable.
Vous savez, on dit quand c'était... Elle refusait totalement les vêtements, notamment. Elle était nue ?
Elle est nue. C'est-à-dire que cette femme est obsédée par le sang. Vous parliez tout à l'heure de Sulot, cet ennemi royaliste. Elle a vu certainement la mort de cet homme. Elle a certainement dû recevoir sur elle une giclée de sang. Et elle est obsédée par justement cette couleur rouge qui a quand même fait sa gloire.
Et donc il faut qu'elle nettoie, c'est
et
ça
elle hein nettoie. Et elle passe son temps à se verser sur ce corps nu, complètement décharné, des baquets et des baquets d'eau glacée. Et lorsqu'on essaie désespérément de lui donner une couverture, aussitôt, elle la refuse. Et ce qui m'a fasciné dans mon livre, c'est ce rapport justement de cette femme qui au départ est d'une très grande beauté et qui vit aussi de cette beauté et dans cette déchéance progressive dans laquelle elle se noie.
Vous racontez très bien hein, cette période. Ça commence comme ça. Le livre s'ouvre par une visite de Nicolas de Réal, qui est le narrateur à Terwijn. Il est complètement amoureux d'elle. C'est vous, Nicolas de Réal, en fait, non ?
On va dire que c'est aussi moi je le revendique. C'est vrai que c'est un personnage qui me hante et qui me fascine depuis l'adolescence.
Comment est-ce qu'on peut être amoureux d'une personne qui est morte il y a 200 ans ? C'est quand même...
Parce qu'on a peut-être beaucoup vu son portrait, qui d'ailleurs est conservé au Musée Carnavalet, qu'on a vu ce dessin terrible et qui est d'une main anonyme, hein, ce qui m'a permis justement de penser qu'il pouvait être réalisé par Nicolas de Réal, parce qu'on a beaucoup lu ce qu'elle disait, parce qu'on a essayé de ressusciter ses mots, ses phrases, cet appel justement à la liberté, ce désir de faire en sorte que les femmes ne soient plus considérées comme des êtres inférieurs, mais au contraire soient jugées comme égales des hommes. Donc cette femme qui est belle, cette femme qui a cette voix extraordinaire, cette femme qui est capable de fasciner les foules, de haranguer le peuple, m'a séduit dans ces périodes d'adolescence où on se prend justement à rêver de cette beauté quasiment inaccessible.
Alors vous aimez les harangueuses, Philippe Séguy, moi j'adore les... fantômes de l'histoire. Et quand je dis fantômes de l'histoire, ce sont ces personnages qui apparaissent à un moment bien précis, que l'on voit comme ça surgir sur la grande scène. Ils sont en pleine lumière, on ne parle que d'eux pendant un certain temps. Et non seulement ils disparaissent très vite et on ne sait quasiment plus ce qu'ils deviennent, mais surtout on ne sait même pas d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'ils sortent du néant pour y retourner et ils ont comme ça une petite période de... Alors il y en a beaucoup, on devrait d'ailleurs faire une liste, ça pourrait faire un recueil, ça, les fantômes de l'histoire. Bref,
c'est vrai, on note.
On peut dire que notre Terwijn de Méricourt est un fantôme de l'histoire. D'abord, ce nom est bizarre, Terwijn de Méricourt, ça vient d'où ça ?
Alors, son nom de famille, c'est Anne-Joseph Terwijn. Terwijn est très naturellement le nom de son père. Mais ses ennemis, les royalistes, tous ceux d'ailleurs qu'elle appelle le parti des aristocrates, vont lui inventer un autre nom avec une sorte d'allitération fausse de son village natal qui est Marcourt.
Marcourt est un village. Donc au départ, c'est Terouanne de Marcourt.
C'est Terouanne de Marcourt, Terouanne né à Marcourt. Mais lorsqu'on passe la frontière, lorsqu'on est en France, il y a toujours ce petit snobisme peut-être lié justement à une certaine mentalité un peu parisienne, si vous me passez la formule, qui fait dire que justement, eh bien, on passe sans aucun problème, et pour une raison d'allitération de son, de Marcourt à Méricourt, qui ne sera jamais son nom. Donc on la dépossède même de son propre nom de femme.
Alors on dit qu'elle avait une très belle voix. Elle a d'ailleurs fait une petite carrière de chanteuse, mais
absolument.
Mais tout de même, elle avait aussi un accent un peu traînant, l'accent de Liège.
Et ce fameux accent liégeois, bien sûr, qu'on va essayer désespérément de lui faire perdre, ne serait-ce qu'au couvent des Ursulines, mais qu'elle ne perdra pas. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, parce que c'est ce qui va lui permettre aussi de se faire appeler la belle liégeoise.
Ce n'était peut-être pas pour rien, finalement, dans son charme.
C'est un charme de plus, hein.
Merci Philippe Séguy d'être avec nous. On a énormément de choses à découvrir sur ce personnage. Votre roman est Embrasser la liberté sur la bouche. C'est publié chez Flammarion. Et nous allons voir dans un instant quel rôle politique majeur cette femme-là a pu assumer.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Aux armes citoyennes, Zazie sur Europe 1, notre invité Philippe Séguy me précisait qu'elle se nomme effectivement Isabelle Truchy de Varennes, je crois.
Exactement. Ça voilà. Sert d'avoir un journaliste de point de vue dans cette émission finalement.
Pure aristocrate, pure aristocratie, très grand nom de France.
Alors Philippe Séguy, on a vu que notre Terouanne n'avait rien d'une aristocrate, elle. Hein. Ce nom de Méricourt lui a été ajouté, nous expliquiez-vous, par la presse royaliste
par ses
ennemis. Comment cette femme qui finalement, pendant toute la première partie de la Révolution et après elle n'avait plus la parole, n'a fait que porter, j'ai envie de dire, une bonne et belle parole. Elle était pour une ouverture, pour une prise en compte des intérêts de ses contemporaines. Comment cette femme a-t-elle pu devenir non seulement le mouton noir des royalistes, mais aussi une personne dont les révolutionnaires eux-mêmes se méfiaient? Tout le monde était contre elle.
Tout le monde est contre elle. En fait, ce qu'il faut penser, à mon sens, c'est que Terouanne est opposée à deux blocs qui eux-mêmes sont, je dirais, irréductibles. Le premier, comme vous le dites, c'est les monarchistes, ce sont les royalistes qui la haïssent totalement. Le deuxième bloc, c'est la bourgeoisie. Qui fait au départ la Révolution française? D'abord les aristocrates, les ennemis jurés, bien sûr, de Terouanne. Et le second bloc des révolutionnaires, c'est les membres de la bourgeoisie. La bourgeoisie, qui a déjà le pouvoir économique, veut bien sûr le pouvoir politique. Terouanne est de trop une femme aux yeux de la bonne bourgeoisie française de l'époque. Est d'abord une mère, c'est une femme qui reste au foyer, c'est une mère qui, évidemment, n'a aucun moyen financier, qui hériterait à peine de la fortune de son père, qui est automatiquement et immédiatement confié à son mari. C'est cela qui révolte Terouanne, c'est cela qui fait en sorte que ces membres de la Révolution s'acharnent contre elle et ne lui fassent véritablement aucun cadeau.
On a vu tout à l'heure, ça c'est assez incroyable, que Santerre lui-même, le fameux Santerre de la garde nationale et les tambours de l'exécution de Louis XVI, ce Santerre est d'un machisme effréné, et il dit que lorsque les bons révolutionnaires sortent de leur comité, de leur club ou de l'assemblée, quand ils rentrent chez eux, ce qu'ils ont envie d'avoir, c'est une femme qui a fait le ménage, la cuisine, qui est bien douce pour les accueillir, et pas une femme qui a passé son après-midi à parler d'idées politiques avec ses copines.
Et le cher Santerre, qui d'ailleurs, et on le sait aujourd'hui, les historiens en ont la preuve, qui était loin d'être blanc-bleu justement pendant la Révolution française, qui a fait une belle fortune justement lui-même en étant déjà fils de brasseur et en faisant de la préfabrication, a en effet tout à fait ce genre d'idées contre les femmes. Mais il y a pire. Vous avez un personnage qui s'appelle Louvet, qui est un des conventionnels, d'ailleurs obscur, et qui passe à la postérité en ayant ce mot abominable. La femme, dit-il, est stérile comme le vice. Donc c'est vous dire ce courant affreux.
La femme est stérile,
stérile comme le vice.
C'est presque du Napoléon, ça.
C'est presque du Napoléon qui va suivre finalement Bonaparte, l'héritier de la Révolution française. Bonaparte qui, dans le code civil, tordra le cou définitivement aux rares velléités, je dirais, de pouvoir et de goût de politique des femmes.
Alors j'évoquais tout à l'heure le bel ouvrage d'Elisabeth Roudinesco, paru chez Albin Michel, sur Terwijn de Méricourt, dont vous avez dû d'ailleurs inspirer, hein, c'est évident. Et Elisabeth Roudinesco nous dit en gros que les grandes figures féminines de la Révolution, finalement, ne sont pas des révolutionnaires. C'est Madame Roland, c'est Marie-Antoinette, c'est Charlotte Corday, bien entendu, mais celles qui pourraient apporter à l'idéal des Lumières et qui pourrait modifier la loi et qui pourrait faire avancer les consciences, eh bien celle-là, elle passe quasiment à la trappe. Terwijn en fait partie.
Terwijn est occulté, la mémoire de Terwijn est occultée par ses ennemis. Il ne faut pas, en quelque sorte, que des générations de femmes entendent parler de ces femmes et qu'elles boivent à cette source qui est éminemment suspecte. Encore une fois, une femme doit être au service de la société. La société étant édictée en quelque sorte par des hommes, la femme se doit d'être au service des hommes. N'oublions pas que Madame Roland, on connaît sa fameuse formule « liberté, liberté, de crime » en ton nom. Madame Roland n'est pas un personnage dont on va lire les textes dans les rares foyers d'éducation des jeunes filles de la Troisième République.
L'autre qu'on peut citer, et que l'on cite d'ailleurs plus volontiers que Terwijn de Méricourt, c'est Olympe de Gouges.
Olympe de Gouges paiera de sa vie ses idées révolutionnaires. Et Olympe de Gouges, on parlait de la terreur tout à l'heure.
Elle est montée sur l'échafaud.
Monte sur l'échafaud.
C'est la première femme guillotinée après Marie-Antoinette.
Et c'est exactement ça. Et elle monte d'ailleurs sur l'échafaud avec énormément de courage. Mais ce n'est pas la mort d'Olympe de Gouges qui va faire avancer en quelque sorte la cause des femmes. Bien au contraire, elle régresse. Et elle ne fera que cela pendant la première partie du 19e siècle.
Alors il y a une chose qui me fascine, Philippe Séguy. C'est l'habileté avec laquelle vous avez tissé, tressé le vrai et le vraisemblable dans ce roman. Parce que je disais tout à l'heure que notre Terwijn était un fantôme de l'histoire. On ne sait finalement pas grand-chose de son enfance et de sa jeunesse. Il a fallu que vous combliez les vides.
J'ai essayé à la fois de combler les vides, mais aussi de me fonder sur une documentation qui existe. Vous évoquiez justement le livre de Madame Roudinesco qui traite, en tant qu'analyste, des problèmes gravissimes de dépression, de ce qu'on appelait à l'époque la mélancolie qui a frappé justement Anne Terwijn. Mais n'oublions pas quand même qu'un texte a été publié dans les années 30, écrit par un officier autrichien qui a pu bénéficier justement de tout un tas d'éléments, de tout un tas de documentation qui sont, je ne dirais pas les minutes du procès, mais tout au moins les entretiens qu'Anne Terwijn a eu avec son juge dans cette fameuse forteresse de Kupstein en Tyrol que
finalement,
vous évoquiez tout
utile,
à l'heure.
Ça. C'est un peu le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc.
Exactement.
Hein. C'est ce qui nous permet d'avoir accès à la vraie vie.
Tout à fait,
Dan.
Tout à fait, Jeanne d'Arc, que vous connaissez bien, cher Franck Ferrand. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on entend à ce moment-là la voix d'Anne Terwijn, on entend ses juges et surtout on entend ce que l'on peut reprocher à une femme. À cette époque, nous sommes en 1791. Et là, c'est très clair, le débat est entre un nouveau monde qui essaie désespérément de naître et un ancien monde qui ne veut absolument pas lui donner les moyens d'être là, de vivre en quelque sorte.
Et il faudra attendre encore un siècle et demi pour que les femmes se voient véritablement reconnues.
Anne Terwijn est une quelque
en France,
sorte...
En France.
C'est presque une ancêtre, en quelque sorte, et j'ose employer le mot, d'une féministe avant la lettre, en quelque sorte.
Alors, à propos de féministe et de féminité, nous allons, dans un instant, nous entretenir avec le directeur de la rédaction d'Historia à propos de 100 idées reçues sur les femmes dans l'histoire. Là encore, je crois que la date était particulièrement choisie.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec une émission spéciale sur Europe 1 dans le cadre de la journée de la femme, Franck.
Et oui, une émission consacrée d'une part, enfin très précisément à Anne Terwijn de Méricourt, et puis d'une façon plus générale, aux femmes dans la Révolution. Et nous avons en ligne Pierre Baron qui est le directeur de la rédaction d'Historia. Bonjour Pierre.
Bonjour Franck.
Merci d'être avec nous. Alors, vous avez publié en partenariat avec Le Point, comme vous le faites maintenant assez régulièrement, encore 100 idées reçues, sauf que ces idées reçues-là concernent précisément le rôle et la place des femmes dans l'histoire.
Oui, à la fois des femmes illustres et des femmes non illustres, c'est-à-dire de ce que l'on peut considérer comme étant des figures de proue parce que les manuels scolaires les ont conservées dans la mémoire, mais aussi de Madame Tout-le-Monde, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, quand on parle de questions de société, comme le mariage ou l'éducation des enfants.
Moi, je me suis beaucoup amusé en feuilletant ce magazine, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a un nombre de préjugés et d'idées fausses sur le sujet, même si l'on est du métier, même si on essaie souvent, c'est même ma vocation, de redresser un certain nombre d'idées fausses, on se rend compte qu'effectivement, qu'est-ce qu'on peut raconter comme bêtise à propos des femmes dans l'histoire. Alors, j'ai ouvert, évidemment, j'ai sous les yeux la revue le numéro spécial au chapitre de la Révolution française. Et là, on peut dire que vous tordez le cou à un certain nombre d'idées fausses. Et déjà, vous nous dites, ça va dans le prolongement immédiat de ce que nous étions en train d'évoquer avec Philippe Séguy, vous nous dites que lorsqu'on dit la Révolution se fait dans les clubs féminins, eh bien en fait, ça n'est pas si simple et c'est même tout simplement assez faux.
Non, c'est carrément faux, il faut quand même avoir l'honnêteté de le dire. Que des femmes puissent assister à des clubs de patriotes mixtes, ça peut arriver. Mais qu'elles puissent y prendre la parole, ça peut également être arrivé. Mais très honnêtement, leur prise de parole et leur influence politique est hélas quasiment nulle. Lorsqu'elles viennent assister à l'Assemblée nationale au débat, on les appelle les tricoteuses à l'Assemblée, parce qu'elles viennent avec leurs tricots et les enfants sur les genoux. Elles écoutent certaines, mais alors les plus hardies peuvent huer tel ou tel orateur, mais elles n'ont encore une fois aucun effet sur la teneur des débats.
Alors l'auteur de cet article, justement, Joëlle Chevet, nous dit que, elle cite Théroigne, hein, puisqu'elle nous dit que les femmes à l'époque, ne l'oublions pas, sont interdites de tribune, sauf à s'y voir conviées expressément, c'est donc une exception, comme Théroigne de Méricourt nous rappelle-t-elle au club des Jacobins en 1792.
Absolument, Franck, et ce qui nous vaut une très très belle phrase d'ailleurs, qui est également citée par Joëlle, nous avons le droit de monter à la tribune puisque nous avons celui de monter à l'échafaud. Ça me paraît assez digne, non ?
Ce qui veut dire, comme vous le dites deux pages plus loin, que lorsqu'on parle de l'égalité de tous les hommes, c'est bien à comprendre au sens sexiste du terme. Les femmes ne font pas partie de cette égalité, notamment, elles n'ont évidemment pas le droit de vote à cette époque.
Bien sûr, et puis encore une fois, mais vous l'avez évoqué, Olympe de Gouges a écrit en 1791 une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais c'est vrai que son écho, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est sinon limité, sinon quasiment nul à l'époque où elle le prononce et à l'époque où elle l'écrit. La parité reste un mythe total sous la Révolution, faut quand même être clair. Il va falloir attendre très 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 longtemps en France. De mémoire, 1875, la première femme médecin. La première femme à recevoir une Légion d'honneur pour des travaux scientifiques, Clémence Royer, 1901.
Exactement.
Attendez, la parité, je veux bien. par exemple, une première femme élue à un conseil des prud'hommes, 1907. Je rappelle, en tant que parité, que les femmes ont voté quasiment un siècle après les hommes, Franck, puisque on peut considérer que 1848, c'est le suffrage universel. Suffrage universel, certes, mais masculin. Et que les femmes en France ont voté, comme vous le savez, en 1945 pour des élections municipales pour la première fois.
C'est-à-dire près d'un siècle plus tard, oui.
Près d'un siècle plus tard, et nous étions d'ailleurs, il faut encore le souligner, un des derniers pays à le leur accorder.
Alors votre numéro, vous parliez d'Olympe de Gouges, consacre justement une très belle page à Olympe de Gouges, et notamment à sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui lui vaut aujourd'hui des propositions de panthéonisation. Vous pensez qu'on va faire entrer Olympe au Panthéon ?
Oui, il y a un projet dans ce sens. En tout cas, il y a des commissions et des gens qui y réfléchissent sérieusement. C'est vrai qu'elle avait tout pour fâcher tout le monde, Olympe de Gouges, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement modéré. Et dans cette période, c'était très 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 dangereux d'être modéré. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui pouvait s'indigner de l'exécution de Louis XVI et qui pouvait également prendre fait et cause dans ses pièces de théâtre contre l'esclavage.
Et voilà,
donc évidemment, il y avait tout à fâcher avec tout le monde.
Elle s'intéresse aux esclaves, elle s'intéresse aux minorités de couleur, tout ça est assez neuf, et ça vient par la plume et par la voix d'une femme, en l'occurrence.
Par la plume et par la voix d'une femme, avec quelque part, je pense que c'est le mérite de cet article d'avoir essayé de souligner son humanisme. Au-delà de cette cause féministe, ô combien respectable, il ne s'agit pas de ça. Il y a chez Olympe de Gouges un humanisme dont le féminisme est une dimension.
Alors, nous n'avons parlé là, évidemment, que de la partie Révolution française, mais ce numéro spécial se consacre à toutes les questions féminines de l'histoire, depuis Cro-Magnon jusqu'à Brigitte Bardot. Merci beaucoup, Pierre Baron, d'avoir été des nôtres. C'est donc en kiosque en ce moment, hein?
Oui, il vient de sortir.
Il vient de sortir, pour la circonstance, bien entendu. Je remarque d'ailleurs, chère Julia, et c'est peut-être la raison de ce petit sourire que je décèle sur votre visage, que nous sommes tous des hommes en train de parler de ces femmes aujourd'hui.
J'étais en train de me le dire, justement. Faustine arrive.
Faustine arrive à la rescousse, heureusement. Philippe Séguy, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Quand vous avez écrit ce livre, alors j'ai dit tout à l'heure que vous étiez amoureux d'Anne Terwijn, donc ça, évidemment, c'est une belle motivation, mais est-ce que vous aviez un autre but pour écrire ce roman?
Pour écrire ce roman, j'avais un but. Dire mon amour, évidemment, pour Anne Terwijn, je vous dis, c'est une chose évidente, réelle. Et c'est aussi, peut-être, lui rendre la parole, faire en sorte que l'on entende ses mots, ses cris, ses douleurs, ses ambitions, ses angoisses, et se dire peut-être que c'est un formidable exemple pour les femmes de notre époque, qui doivent justement continuer à se motiver, continuer à se battre. Je crois que les fantômes du machisme sont encore bien présents et que Anne Terwijn a montré justement une voie, une direction et qu'il serait bon justement de continuer à la suivre.
Et embrasser la liberté sur la bouche, c'est le titre donc de votre roman. Je dis roman parce qu'effectivement il a fallu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, combler un peu les vides, mais c'est quand même un travail historique fondamental. Moi je suis, et je serais d'ailleurs mal placé pour dire le contraire, puisque c'est quand même une partie non négligeable de mes propres activités, mais je suis très favorable à cette attitude qui consiste à apprendre tout ce que l'on peut savoir d'un personnage ou d'une époque et d'essayer de faire le lien, de combler tout ce qui manque, eh bien avec l'imagination, mais une imagination compétente et dirigée, ce qui est tout à fait le cas de la vôtre, cher Philippe. Et
merci.
Embrasser la liberté sur la bouche aux éditions Flammarion. Et puis, je rappelle le titre de l'ouvrage d'Elisabeth Roudinesco, Terwijn de Méricourt, une femme mélancolique sous la Révolution, avec une préface d'Elisabeth Badinter, c'est aux éditions Albin Michel. Voilà, merci infiniment à toute l'équipe, et bien sûr à Lorena, à Guillaume, à Nicolas. Et nous allons passer la parole à une femme, dites donc. Ça tombe bien. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous Europe 1. Mais les femmes à l'honneur en ce 8 mars, et pour nous accompagner durant une heure, nous allons recevoir une femme dont le talent consiste à sublimer les autres. La styliste Chantal Thomas est mon invitée pour une émission spéciale. Avec elle, nous allons parler de son métier, de sa vision de la femme dans notre société. Nous allons également parler de sa vie privée, de son rôle de grand-mère. Une émission pleine de confidences et de sensualité. C'est le programme qui nous attend, Franck. Comme tous les jours, on vous attend dès à présent. Faustine.europe1.fr. À tout de suite.
Merci beaucoup Faustine.
À demain, Franck.